Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Henri Troyat.
Il y a quelque chose de très spécial, de très particulier en ce qui concerne Pouchkine. C'est que c'est non seulement un poète que tous les Russes, qu'ils soient soviétiques ou qu'ils soient des Russes émigrés, admirent profondément, mais c'est en même temps l'ami de chacun.
Ça peut pas faire de mal.
Il est encore vivant en chaque Russe. On ne l'admire pas seulement, on l'aime. On l'aime comme quelqu'un de fraternel, de très proche de soi, dont les défauts même paraissent charmants.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Mon oncle, un homme de morale, lorsqu'il sentit qu'il trépassait, força l'estime générale et se tailla un franc succès. L'exemple, certes, nous inspire, mais quel ennui peut être pire que de rester des nuits durant attendre au chevet d'un mourant. C'est une ignominie perfide qu'un presque mort a égayé, lui arrangé ses oreillers, compté ses gouttes, l'air languide et soupirant penser tout bas « Satan ne te prendra-t-il pas ?» Ainsi, volant de coche en coche, pensait un jeune et fier gandin, seul héritier de tous ses proches, sur vœu suprême de Jupin. Ami de mes premiers poèmes, sans préambule, à l'instant même, présentons-le tout uniment. C'est le héros de mon roman. Mon bon camarade Onéguine, naquit, lecteur, à Pétersbourg, où vous aussi vite le jour, et vous brillâtes, j'imagine. Jadis, j'y flânais jour et nuit, mais le climat du Nord me nuit. Le soir déjà, son traîneau glisse, si vite qu'il effraie les gens. Le givre luit sur sa pelisse et tremble en poussière d'argent. Il file chez Talon, il dîne en compagnie de Caverine. Il entre, un jet mousseux d'ail de la comète qui jaillit. Il s'offre du rosbif qui saigne, des truffes luxe de nos jours et du foie gras fait à Strasbourg. Tout ce par quoi la France règne, puis couronnant le roquefort, un ananas de sucre et d'or. À d'autres soins je nous consacre, courir au bal est notre lot, car attrapant au vol un fiacre, notre homme y file au grand galop. Devant les rangs d'immeubles ternes, des traîneaux aux doubles lanternes glissant par les rues en sommeil, y versent des reflets vermeils, irisant d'arc-en-ciel la neige. Semé de vasques enflammés, lui un palais illuminé. Des ombres passent en manège sur les carreaux d'un seul tenant, dames, messieurs s'entretenant. Notre héros accourt, le Suisse le voit grimper avec quel feu, les escaliers de marbre, il lisse puis ébouriffe ses cheveux et entre. Salle frénétique, l'orchestre est sourd de sa musique, la foule est à la mazurka, partout la presse et le fracas, des bottes de chevaliers gardes tonnent auprès de doux petons qui volent, fusent, font des bonds, en enflammant qui les regardent, et les violons criards et fous noient les chuchotements jaloux. Vous aurez peut-être reconnu ce jeune mondain qui vole dans la nuit de Pétersbourg. C'est Eugène Onéguine, le personnage titre du chef-d'œuvre de Pouchkine. Chacun connaît par cœur en Russie des extraits de ce formidable roman en vers. Quand Pouchkine s'attelle à ce poème monumental en 1823, il a seulement 24 ans. Jugé dangereux par le tsar, il a dû quitter Pétersbourg pour la Bessarabie, une région périphérique de l'Empire. Pouchkine met 7 ans à écrire Eugène Onéguine. Chapitre après chapitre, il publie le texte par fragments, avant de l'éditer complètement en 1833. C'est un vrai succès. Quelques décennies plus tard, Tchaïkovski l'adapte pour l'opéra. Dans ce long roman en vers, le narrateur nous conte les aventures d'un ami à lui, Eugène Onéguine. Onéguine, c'est cet aristocrate désabusé qui décide un jour de s'établir en campagne, loin des artifices de la ville. Là, il rencontre Tatiana, une jeune femme songeuse et romanesque qui s'éprend de lui. Cet amour à contre-temps est l'une des clés de ce roman multiple qui condense mille et une facettes, mêlant tradition populaire et allusion politique dans une grande liberté de ton. Car autour de son héros, Pouchkine s'amuse à brouiller les pistes, glisse des apartés à ses lecteurs et surtout compose une superbe fresque de la Russie. Et puis, il y a cette langue unique qu'invente le poète, des strophes originales de 14 vers chacune qui rythment tout le roman. une langue virtuose à laquelle la merveilleuse traduction d'André Markowitz rend pleinement hommage. Elle est publiée par les éditions Actes Sud et désormais disponible en collection Babel. Ce soir, emboîtons le pas d'Eugène Onéguine et partons pour la Russie. L'histoire commence à l'hiver 1819 quand notre héros quitte Pétersbourg, sa ville natale. Eugène Onéguine, Yevgeny en russe, est un camarade du narrateur. Et tout au long du roman, on retrouvera les incursions malicieuses et les digressions de ce narrateur. Séduisant, fortuné, Onéguine, célibataire, a tout pour plaire. Il évolue avec aisance dans le tourbillon mondain de Pétersbourg. Pourtant, vient un moment où cette vie trépidante ne suffit plus à Onéguine. Un vieil oncle fortuné sur son lit de mort se manifeste alors. Une nouvelle providentielle, car notre dandy, vous allez voir, boude ses anciens plaisirs. Non, tôt le froid gagna son âme. Le bruit du monde le lassa. Très vite, courtiser les dames, ce fut un jeu qu'il délaissa. Les trahisons le fatiguèrent, les amis frères l'ennuyèrent, car certes pouvait-il toujours gober son foie gras de Strasbourg et son beefsteak sur du Lafitte en pétillant de mots d'esprit quand la migraine l'avait pris. Et quoiqu'il s'enflammât très vite, un beau matin il n'aima plus le plomb, le sabre et les chahuts. La maladie dont les mystères laissent pantois les gens de l'art, nommée le spleen en Angleterre et chez nous autres le cafard, le prit dans l'ombre de son aile. Se brûler certes la cervelle, il n'en éprouva point l'envie, mais fut plus froid devant la vie. Tel Childe Harold, distrait et sombre, il paraissait dans les salons, les commérages, le boston, les yeux doux, les soupirs dans l'ombre, plus rien ne pouvait l'émouvoir. Il regardait sans plus rien voir. Or, un rapport vint du domaine. L'oncle écrivait son régisseur, souhaitait, sentant sa mort prochaine, serrer l'enfant contre son cœur. Empreint du deuil de la missive, notre Yevgeny, d'une âme vive, partit en poste au grand galop, bâillant déjà d'avoir pour lot, au nom d'un espoir d'héritage, ennuis, soupirs et bâillements, c'est le début de mon roman, mais accourant dans le village, il vit son oncle déjà mort, la terre ouverte pour son corps. La maison regorgeait de monde, hommage aux morts à tout moment. Amis ou non faisaient la ronde, des amateurs d'enterrement. Le mort, dès lors, fut mis en terre. Les popes, les propriétaires, mangèrent, burent, fiers d'avoir, en repartant, fait leur devoir. Onéguine est maître de ferme. Ruisseau, forêt, haras, prairie, lui, le mutin, n'ayant appris qu'à dépenser, qu'à vivre à terme, jouissait d'avoir changé de voie, même ainsi pour n'importe quoi. Deux jours, les plaines solitaires éveillèrent son intérêt, le doux murmure des rivières ou l'ombre fraîche des forêts. Trois jours, et bois, prairies, collines n'occupaient plus mon Onéguine. Ensuite, il s'endormait devant. Puis il comprit lucidement que l'ennui est partout le même. Le spleen lui pèserait toujours, même sans vie à Pétersbourg, sans bal, sans cartes, sans poèmes, comme votre ombre cet ennui, comme une épouse, il vous poursuit. Voici donc Onéguine établi sur les terres familiales. Devenu l'héritier du grand domaine de son oncle, Onéguine est plus seul que jamais. C'est alors qu'entre en scène Vladimir Lenski, un voisin d'à peine 20 ans, poète plein de fougue. L'ennui traquait notre Onéguine dans un village délicieux où l'homme simple, j'imagine, aurait 100 fois béni les cieux. Le manoir, seul sur une butte, préservé des bourrasques brutes, dominait un cours d'eau. Plus loin, prairies et champs dorés, le soin des hommes bigarrait les terres. On distinguait quelques hameaux, errait, paisibles des troupeaux, et des ombrages solitaires menaient au parc ensauvagé, où la dryade aimait songer. Les gens voulurent le connaître, mais comme alors, par les communs, il s'arrangeait pour disparaître sur Zaporog, son poulain, sitôt qu'au loin dans le virage tintaient leurs dignes équipages. Les gens, vexés du procédé, cessèrent de le fréquenter. Notre voisin, un rustre infâme, un franc-maçon qui boit du vin, au vert et rouge, un jacobin, jamais un baise-main aux dames. Oui, non, il parle impoliment. Tel fut, en bref, le jugement. Or, un nouveau propriétaire vint s'installer alors tout près. qu'un jugement aussi sévère semblait soumettre au même arrêt. Vladimir Lenski, un poète, fleur de Göttingen, cœur et tête, beau, jeune et fort, rempli d'ardeur, de Kant brûlant admirateur, des brumes bleues de l'Allemagne portaient les fruits de l'instruction, des rêves de libération, une âme d'aigle des montagnes, un discours vif et ampoulé, de longs cheveux noirs et bouclés. Lenski, d'une âme peu encline aux joues permanentes d'Hyménée, rêvait de connaître Onéguine, qui paraissait le fasciner. Les deux hommes se rencontrèrent. Poèmes et prose, vagues et pierres, glace et brasier différaient moins. Au début, ils se sentaient loin, et leurs rencontres étaient fades. Puis, ils se plurent. Tous les jours, ils s'invitèrent faire un tour, et ils devinrent camarades. Ainsi vous vient, j'en fais autant, une amitié pour tuer le temps. Tout nourrissait leur sens critique. Ils débattaient de lien en lien. Les contrats des tribus antiques. S'instruire a-t-il été un bien? Les préjugés des millénaires ou l'outre-tombe et ses mystères. La prédestination, la vie. Ils confrontaient tous leurs avis. Lenski, dans son ardeur divine, lisait, peut-être un peu trop fort, des bouts de poésie du Nord. Et, conciliant, notre Onéguine, qui ne comprenait pas vraiment, les écoutait très doctement. Il souriait de son poète. Ses grands discours remplis de feu, ses idées pas encore faites, la flamme ardente dans ses yeux, c'était sa cure de jouvence. Il enfouissait sous le silence de quoi le désillusionner et se disait « Pourquoi gêner la joie fugace qui l'inonde ? Le temps viendra, même sans moi, qu'il rêve heureux, qu'il brûle et croit vivre la perfection du monde, jeune folie d'un jeune sang, excusons cet adolescent. »
Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда везде одна мечта, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знав. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Ах, я люблю тебя, я люблю тебя, как одна душа поэта только любит. Ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души, согретой девственным любви.
La littérature russe, c'est l'œuvre de Pouchkine.
André Markovitch.
Tout vient de Pouchkine. C'est pour ça que quand on demande à un russe quel est votre poète préféré, ça n'a aucun sens. Parce que c'est même pas qu'on préfère Pouchkine. c'est Ilya Pouchkine. D'abord, bon, c'est lui qui a créé la langue littéraire russe, même si en fait c'est pas vrai, elle existait un peu avant, etc., etc. Mais en gros, c'est tout à coup il y a eu une langue en poésie avec une harmonie incroyable, une espèce de musique incroyable, et une musique qui nous accompagne dès l'enfance.
Les deux amis en viennent bientôt à parler d'amour. Onéguine a charmé bien des femmes à Pétersbourg, mais il ne croit plus aux passions. Lenski, lui, est fou amoureux d'Olga Larine, sa fiancée qui vit dans les environs. La jeune femme a une sœur aînée, Tatiana, dite Tania. Voyons comment le narrateur nous présente chacune de ces deux demoiselles qu'Onéguine va bientôt rencontrer. Je commence par Olga, la pétillante fiancée de Lenski. Toujours modeste, toujours sage, gai comme est gai le point du jour, comme un poète, cœur volage, tendre comme un baiser d'amour. Des yeux bleus ciel, des boucles blondes, tout en Olga, ses joues bien rondes, sa voix, ses moindres mouvements, vous... Mais n'importe quel roman nous en présente la peinture, peinture qui jadis m'a plu, mais dont le charme n'agit plus et qui m'ennuie outre mesure. Permettez-moi de me tourner vers Tatiana, sa sœur aînée. Donc Tatiana, ce nom, je l'ose. Ni par le charme de sa sœur, ni sa fraîcheur au teint de rose, elle n'aurait séduit les cœurs. Sauvage, sombre, silencieuse, biche des bois, toujours anxieuse, elle avait l'air parmi les siens venue d'ailleurs, surgie de rien. Inapte à plaire, à sourire, elle ne câlinait pas ses parents. Enfant avec d'autres enfants, ne jouait pas à la marelle, mais restait seule à la croisée, tout absorbée dans ses pensées. La songerie, sa confidente, depuis ou presque le berceau, dans ses campagnes somnolentes, ornait ses veilles, son repos. Ses doigts fluets de jeune fille n'avaient jamais connu l'aiguille, ourlé d'aucune broderie, les draps, les robes, les soieries. Déjà avide de puissance, l'enfant qui joue à la poupée apprend sans trop s'en occuper nos règles d'or, les bienséances, et reproduit très gravement les réflexions de sa maman. Mais Tatiana, même à cet âge, vit ses poupées sans intérêt. Sur ses parents, sur le village, ne leur confia aucun secret. Les jeux espiègles, les caprices la faisaient fuir, mais sa nourrice, comptant l'hiver au noir des nuits, faisait frémir son cœur séduit. Et quand, afin qu'Olga s'amuse, on rassemblait dans la prairie ses camarades, ses amis, elle évitait leur joie confuse. Leur rire, leur frivole jeu lui semblait fade, ennuyeux. Elle aimait devancer l'aurore sur le balcon et voir les cieux pâlis quand vibre et s'évapore le cœur des astres merveilleux. Loin, au levant, un coin s'irise. De l'horizon vient une brise. Le jour s'avance lentement. L'hiver, lorsque la nuit s'étend plus longuement sur l'hémisphère, lorsque la lune est embrumée et qu'un silence inanimé semble engourdir toute lumière, seule éveillée dans le logis, elle lisait à la bougie. Par l'entremise de Lenski, Onéguine fait la rencontre de Tatiana. Un soir, Onéguine accompagne son ami chez les deux sœurs Larine. Il trouve la fiancée de Lenski banale, mais n'est pas insensible à la mystérieuse Tatiana. Tatiana, en retour, s'éprend d'Onéguine sur le champ. Un amour absolu, nourri par ses lectures et son imaginaire. Elle lui confie ses sentiments dans une lettre passionnée, un magnifique texte qui est encore sur toutes les lèvres en Russie. Découvrons cette lettre qui nous révèle une âme d'héroïne. Je vous écris. Quoi d'autre à dire? J'ai tout dit si je vous écris. Je sais, cela peut vous suffire pour me punir par le mépris. Mais dans ma peine, mon martyr, vous qui gardez un cœur qui bat, vous ne vous détournerez pas. Au début, j'ai voulu me taire. Croyez-moi, vous n'auriez pas su mon déshonneur si j'avais pu nourrir l'espoir, même éphémère, de vous revoir de temps en temps dans la maison de mes parents. Juste écoutez ce que vous dites. Répondre un mot. Et seul après, penser, oui, sans arrêt, attendre encore une visite. Les gens, dit-on, vous les fuyez. Tout vous ennuie dans nos retraites. Chez nous, si vous vous ennuyez, pour nous, vous voir est une fête. Par quel hasard être venu ? Dans mon désert, dans mon silence, je ne vous aurais pas connu. J'aurais pu vivre sans souffrance, le feu d'un cœur sans expérience. Avec le temps, se serait tu. Quelqu'un aurait compris mon âme. Je serais devenue sa femme, mère et modèle de vertu. Un autre, non, personne au monde n'aurait jamais reçu ma foi. C'est un décret des cieux qui gronde. Ils ont tranché, je suis à toi. Ma vie entière fut un gage de notre alliance dans l'amour. Des dieux, tu portes le message, gardien fidèle de mes jours. C'est toi qui me venais en rêve, invisible et déjà chéri. Tes yeux brûlaient dans mon esprit, ta voix me poursuivait sans trêve. Depuis longtemps, rêver cela. Non, tu entras, je fus certaine, un froid brasier emplit mes veines. Je lus dans l'âme, le voilà. Et quoi ? Ta voix m'est familière, tu me parlais, douce lumière, lorsque j'aidais les miséreux ou soulageais par la prière du cœur le trouble douloureux. Et là, à la minute même, n'est-ce pas toi, vision que j'aime, qui dans la transparente nuit viens effleurer ma chevelure, toi dont la voix aimante et pure ressuscite l'espoir enfui? Qui donc es-tu? Es-tu un ange ou un démon au charme étrange? Résous le doute qui me prend. Peut-être tout cela est vide, l'erreur d'un cœur encore candide. Mon sort peut-être est différent, mais soit, accepte mon offrande. Mes jours sont tiens, si lourds qu'ils soient. Je suis en larmes devant toi, j'implore que tu me défendes. Tu vois que je suis seul ici, qui me comprend ici? Personne. Je me languis, je déraisonne, et je dois donc me perdre ainsi. Viens me chercher, j'attends, ranime d'un seul regard ce feu qui joue, ou par un blâme légitime, rompt l'illusion d'un songe fou. C'est fait, je ferme cette lettre. L'effroi, la honte au fond du cœur, mais mon garant est votre honneur. J'ai foi en lui de tout mon être. Onéguine est-il à la hauteur d'un tel amour? La lettre de Tatiana touche notre héros. Jusque-là, volage et détaché, il éprouve pour la jeune femme un attachement inédit. Mais Onéguine, on le sait, se méfie des sentiments. Glissons-nous dans le jardin où il rejoint Tatiana pour lui livrer sa réponse. D'abord, ce fut un long silence. Mais Onéguine s'approcha et « Vous m'avez écrit, je pense. » Commença-t-il. « Ne niez pas. J'ai lu l'aveu d'une âme pure. Son innocence, sa droiture, il m'a paru certes charmant. Il fit jaillir des sentiments que bien longtemps j'avais fait taire. Pourtant, mon blâme reste entier et je me dois de vous payer par un aveu aussi sincère. Ma confession est devant vous. Jugez ce que je vous avoue. » Si dans un cercle domestique mes jours j'avais voulu borner, si un destin plus sympathique m'avait promis à l'hyménée, si les fonctions d'époux, de père pouvaient un tant soit peu me plaire, c'est vous, je vous le garantis, qui eussiez fait mon seul parti. Sans promettre monts et merveilles, trouvant mon idéal perdu, je vous aurais sans doute élu, compagne de mes sombres veilles, en gage d'un bonheur promis, heureux, autant qu'il m'est permis. Mais le bonheur me reste hostile, on ne m'a pas créé pour lui. Vos perfections sont inutiles, indigne est l'homme que je suis. Sur mon honneur, je vous assure, l'hymen serait notre torture. Vous aimerais-je? Accoutumé, je cesserai de vous aimer. Vous pleurerez, vos pauvres larmes, loin de pouvoir toucher mon cœur, accroîtront juste sa fureur. Vous pouvez donc juger des charmes que le mariage nous promet à les savoir à tout jamais. C'est bien la pire chose au monde, l'hymen, s'il faut que l'épousée soit délaissée et se morfonde près d'un mari qui l'a blessée. Que le mari, morne coupable, maudisse un sort inévitable et enfermé dans son courroux, en rage, froidement jaloux. Je suis ainsi. De tout votre être, appeliez-vous un tel malheur, avec cette âme, avec ce cœur que vous mettiez dans votre lettre? Un sort si peu digne d'envie est-il promis à votre vie? Le temps revient-il en arrière? Mes rêves morts resteront morts. Je vous porte l'amour d'un frère, voire un amour plus fort encore. Écoutez ce conseil utile. Souvent, une âme juvénile changera ses songes légers. Ainsi, l'arbuste voit changer chaque printemps tout son feuillage. C'est, je suppose, notre loi. Vous aimerez encore. Mais quoi ? À l'avenir, soyez plus sage. Un autre aurait compris plus mal.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ce n'est que bien plus tard et dans un tout autre décor que les deux personnages se retrouvent. Les mois passent. Tatiana, rongée par le refus d'Onegin, se réfugie dans la nature et cherche à lire son avenir dans les signes et les rêves. Un sombre pressentiment l'étreint. Onegin, lui, vit en ermite. Ignorant tout de leur histoire, Vladimir Lensky file toujours le parfait amour avec sa fiancée, Olga. Il convainc Onegin de l'accompagner à une fête en l'honneur de Tatiana, où, lui assure-t-il, les convives seront peu nombreux. Nous voici le matin de cette fameuse fête. Un magistral plan séquence qui commence tambour battant. Mais au milieu du tourbillon, le drame couvre. Dès l'aube, la maison Larine est pleine. Les tribus voisines affluent, accumulant traîneaux, calèches, charabancs, landaus, devant la porte, joie et presse. Salut, baisers dans le salon, piailles, fillettes et bichons, fracas et rires, fièvre et liesse, semelles sur le parquet peint, cris de nounou, pleurs de bambins, et les conversations s'arrêtent. Les bouches mâchent pour un temps, fracas des verres, des assiettes, couteaux, fourchettes cliquetant, puis les convives se reprennent et le grabuge se déchaîne. On n'entend plus, on hurle, on rit, bourdonnement, plaisanterie, à deux battants s'ouvrent la porte, Lensky et Onegin. Enfin ! Crie Larina. Mon Dieu ! Chacun se pousse un peu, on leur apporte deux chaises, les couverts sont mis, on fait asseoir les deux amis. Face à Tatiana, et pâlissante, ainsi la lune un jour naissant, biche harassée, elle est tremblante, et son regard s'obscurcissant reste baissé. Toute son âme brûle, elle étouffe, elle se pâme. Les deux amis l'ont saluée, mais elle est sourde, et la buée sur les prunelles, la pauvrette va défaillir. Mais la raison, la volonté l'emporte, non. D'un faible hochement de tête, elle répond, ne cède pas, elle est restée à son repas. Les nerfs, les crises féminines, les évanouissements subis, insupportés, mon Onegin, lui avaient trop gâché la vie. Quand ce toqué vit les convives, il fut fâché. Devant la vive flamme qui avait pris Tania, baissant les yeux, il enragea. Il se jura comme en vengeance de faire bien bisquer Lensky, pour jouir au moins de cet acquis, et donc en triomphant d'avance, se mit à caricaturer tous les mangeurs de la contrée. Bien sûr, d'autres convives virent Tania si brusquement troublée, mais le sujet de tous les dires était le pâté chaud, salé, hélas par trop, pourtant merveille, on décachette les bouteilles entre la viande et le dessert. Voilà, c'est le mousseux qu'on sert, avec des coupes longues, fines, comme ton tour de taille est fin. Zizi, mon cœur, cristal divin, objet de poésie mutine, vase d'amour bien émouvant, toi qui m'as enivré souvent. Les chaises qu'on déplace tonnent. Tous au salon, c'est la ruée. Et les abeilles abandonnent pour les fleurs tendre leur rucher. Heureux de leur ventre et prospère, les pères ronflent entre pères. Les mères sont au coin du feu, les jeunes dans leur cercle entre eux. On a ouvert les tables vertes aux fanatiques du carton. L'ombre ancestrale et le boston, et puis le whist, toujours alerte. Famille morne comme pluie, enfant du dévorant ennui. Toujours pareille, toujours folle aux jeunes jours tourbillonnants, la valse vire, caracole, les couples passent tournoyant. Touchant l'instant de sa vengeance, Yevgeny, triomphant d'avance, va vers Olga et tous les deux. Ils dansent tant qu'on ne voit qu'eux. Il la ramène vers un siège, lui parle de n'importe quoi, puis il l'invite une autre fois et ils reprennent leur manège. Les gens s'étonnent. Vladimir, éberlué, se sent frémir. Monbouyanov, ce joyeux de rire, présente Olga et Tatiana à Yevgeny. Lui, ses yeux brillent. Et Yevgeny choisit Olga. Tête penchée, il lui chuchote un madrigal, des rimes sottes, et glisse en lui serrant la main. Elle a les joues presque carmin. Son amour-propre de coquette s'est enflammé. Lenski voit tout. La jalousie l'emporte. Il boue à gros bouillon. Notre poète attend, brûlant d'indignation, invite Olga au cotillon. Non, elle est prise. Qu'est-ce à dire ? Olga est prise. Elle a promis à Onegin. Est-ce un délire ? Oh Dieu, Dieu, qui lui a permis ? Comment, juste sortie des langes, elle, un démon à tête d'ange, déjà gavée de ce poison, déjà experte en trahison ? Il n'y tient plus, Lenski, tout pâle, vouant la femme et son cœur faux au diable, exige ses chevaux et part. Deux pistolets, deux balles, un point c'est tout. Voilà, soudain, de quoi répondre à son destin. L'engrenage fatal est lancé, jaloux, s'estimant trahi par son ami, Lenski provoque Onegin en duel. Il s'en serait fallu de peu pour que la catastrophe soit évitée. Chacun des deux amis manque de se raviser. Lenski, car Olga le rassure sur son amour, Onegin, qui s'en veut d'avoir aiguisé la jalousie de son jeune ami. Pourtant, aucun des deux hommes n'a le courage de faire machine arrière. Nous voici donc au matin du duel. Onegin, Lenski et leurs témoins respectifs, Guillot et Zaretsky, se retrouvent dans un champ désert. Quand il écrit la scène qui suit en 1826, le jeune Pushkin ignore qu'onze ans plus tard, il mourra lui-même au cours d'un duel amoureux, tué par l'amant de sa femme. Découvrons donc cet épisode dramatique comme une troublante prémonition. Les ennemis, et quoi, la veille, ils ignoraient la soif du sang. Ils partageaient monts et merveilles, riaient, heureux, reconnaissants et fraternels. Et là, ses frères, en ennemis héréditaires, pris dans un rêve plein d'effroi, ils se préparent de sang-froid à se tuer sans rien se dire. Tant que leur main n'est pas souillée, pourquoi n'ont-ils pas essayé, que sais-je, d'éclater de rire ? Mais le farouche honneur mondain a peur de déroger soudain. Les armes luisent, la baguette teinte sous le maillet, glissant au fond du fût à six facettes, la balle. Et le chien claque. Un lent filet de poudre tombe, clair, au bassinet. Denté, la pierre reste soigneusement levée. Encore, Guillot veut s'esquiver, lorgnant la souche la plus sûre, leur cap au sol, les ennemis attendent tant que Zaretsky trouve un terrain, marque et mesure 32 pas, chacun un bout. Les deux amis s'arment, c'est tout. Marchez ! Les ennemis s'avancent. Pour l'instant, ils ne visent pas. Leurs pas sont fermes, froids, silence. Ils font les quatre premiers pas. Marche mortelle, assassine. Sur sa lancée, là, Onegin a entrepris de redresser son pistolet sans se presser. Voilà cinq pas supplémentaires. Plissant l'œil gauche, alors Lenski vise à son tour, mais Yevgeny tire. L'heure a sonné sur terre. Et le poète, sans un bruit, laisse échapper son arme, puis pose sa main sur son sein gauche et tombe. Dans ses yeux brumeux, nulle douleur, la mort qui fauche. Ainsi, d'un haut sommet neigeux, joue au soleil la masse blanche qui glisse et fond en avalanche. Notre Yevgeny, soudain, le sang figé, court vers l'adolescent. Il le regarde, il le rappelle. En pure perte, il ne vit plus. Le jeune Aed a disparu, souffle un vent noir, la rose frêle succombe à l'aube du matin, la flamme sur l'autel s'éteint. Inerte, il gisait là et pâle, son front plein d'une étrange paix. Du sein qu'avait troué la balle, le sang en s'écoulant fumait. Voilà encore une seconde, ce cœur était empli d'un monde, rêvant, aimant et haïssant, tremblant de vie, bouillant de sang. C'est comme une maison déserte, vouée au vide pour toujours. Tout y est calme, triste et lourd. Volets fermés, vitres couvertes de craie. La maîtresse est loin. Où ça? Dieu sait. Plus trace. Rien. Notre héros, rongé d'angoisse, son pistolet toujours en main, fixe Lenski. Son cœur se glace. « Mouais, c'est fini, » dit le voisin. « Fini. » Le mot terrible sonne. Fauche Yevgeny. Il en frissonne. S'écarte. Appelle à lui ses gens. Zaretsky place diligent le corps dans l'équipage vide. Il le ramène. Affreux transport. Les chevaux, ressentant la mort, renaclent, ruent, secouent leurs brides, leurs freins d'acier, et puis tout droit, fumant, ils filent dans l'air froid. Le drame signe la fin d'une époque. Lenski mort, Onegin, Olga et Tatiana quittent l'un après l'autre le village. Mais le roman d'Onegin et de Tatiana n'est pas encore fini. Onegin, suite au drame dont il est coupable, part en voyage. Olga, la fiancée de Lenski, se marie finalement avec un militaire et le suit en garnison. Restée seule au village, Tatiana tente d'oublier Onegin. Visitant son ancienne maison, scrutant ses objets et ses livres, elle le découvre inconsistant et égoïste. Pressée par sa mère, la jeune femme quitte à regret son village pour Moscou afin de s'y marier. Des années passent, Onegin rentre à Moscou. Un soir, au bal, il aperçoit Tatiana. Épouse d'un vieux général, elle est altière et sublime. Onegin, ébloui, cherche à la reconquérir. À son tour, il lui témoigne par lettre son amour. Sans réponse, il se décide un jour à se rendre chez elle. Voici donc la scène finale de notre roman, les dernières retrouvailles de ces amants d'infortune. Les masques tombent, et c'est à Tatiana, superbe héroïne de bout en bout, que Pouchkine laisse le dernier mot. Les jours ont fui, l'hiver s'apprête à se résoudre dans la boue. Onegin n'est pas poète, il n'est pas mort, il n'est pas fou. Le printemps le ranime, il quitte les chambres chaudes qu'il habite où marmonte, il a sommeillé, les vitres doubles, le foyer, un beau matin. Et il s'installe dans un traîneau, fouette cochée. La glace bleue en blocs tranchés luit au soleil, la neige sale se désagrège dans les rues. Le long des quais, où a couru mon Yevgeny ? Question risible. Qui donc, lecteur, ne devine ? Oui, mon toquet incorrigible, il vole. Il court chez Tatiana. Il entre, il est plus blanc qu'une ombre. Le vestibule est vide et sombre. La salle, l'autre salle aussi. Une autre porte. Il est saisi. Bouleversé dans tout son être, c'est la princesse. Il est figé. Assise, pâle, en négligé, lisant je ne sais quelle lettre, pleurant tout bas, pleurant sans fin, la joue appuyée sur la main. Qui n'eût senti que la détresse rongeait son âme à cet instant, n'eût reconnu en la princesse Tania, notre Tania d'avant. Fou de regret, mon Onegin tombe à ses pieds. Elle s'incline dans un sursaut. Elle se tait. Ses yeux n'affichent désormais nulle stupeur, nulle colère. Lui, la souffrance dans ses yeux, plainte ou reproche silencieux, elle voit tout. Comme naguère, son cœur, ses rêves emportés, ils viennent de ressusciter. Ses yeux rougis le dévisagent, elle ne le relève point, laissant ses lèvres dans leur rage baiser sa main, mais l'âme est loin. Allez savoir ce qu'elle pense. Ainsi s'instaure un long silence. Puis elle dit, posant la voix. Assez. Relevez-vous, je dois m'expliquer une fois pour toutes. Onegin, quand le destin nous a menés dans ce jardin, vous vous en souvenez sans doute, n'ai-je écouté votre discours d'un cœur soumis ? C'est à mon tour. J'étais plus jeune alors, plus belle, me semble-t-il, et plus que tout. Je vous aimais. Et pourtant, quelle réponse ai-je trouvée en vous ? Rien que de la froideur. Ou l'âme d'une humble vierge qui s'enflamme, cela vous l'aviez vu 100 fois ? Et puis, mon Dieu, ce regard froid, d'y repenser le sang se fige, et ce serment. Mais ce n'est rien. Non, vous avez voulu mon bien. Pendant cette heure atroce, dis-je, je vous ai vu, homme d'honneur. Merci à vous, du fond du cœur. Alors, c'est vrai, dans ma retraite, loin de l'éclat des vanités, je ne vous plaisais pas. Que faites-vous donc à me persécuter ? Pourquoi donc aujourd'hui me suivre ? Ou c'est le monde où je dois vivre qui vous a fait changer de ton ? Quand je suis riche, j'ai un nom, mon mari est couvert de gloire, la cour nous garde sa faveur, Et quand, dès lors, mon déshonneur, ma chute deviendrait notoire, vous donnant ce que vous aimez, une douteuse renommée. Je pleure. S'il vous reste cher, votre Tania du temps passé, je vous l'affirme, je préfère votre discours dur et glacé avec ses piques offensantes à votre passion blessante avec ses lettres, ses sanglots. Car quoi, mes rêves virginaux, oui, ma candeur et ma jeunesse, au moins vous en aviez pitié. Et maintenant, vous à mes pieds, ici, par quelle petitesse, vous si brillant jadis, si fin, la proie d'un sentiment mesquin. Et moi, ces fastes, Onéguine, ces faux clinquants des jours dorés, les compliments qu'on me destine pour ma maison et mes soirées, qu'en ai-je à faire? J'abandonne l'éclat, la fièvre monotone, ce bal masqué, brillant et vain, pour quelques livres, mon jardin, la maison humble et solitaire, ces lieux où, la première fois, vous vous êtes montré à moi, et puis ce pauvre cimetière, la croix et cet ombrage frais, où ma nourrice dort en paix, et le bonheur était si proche, oui, si possible. Mais mon sort reste scellé. Je me reproche une imprudence. Fût-ce un tort, cédant aux larmes, aux prières, d'avoir obéi à ma mère. Tous les partis m'étaient égaux. Je suis marié. Pour vous, il faut, s'il vous plaît, me laisser vous-même. Je sais qu'il est dans votre cœur de la fierté et de l'honneur. À quoi bon feindre ? Je vous aime, mais j'appartiens à mon époux et lui serai fidèle en tout. Elle est partie. Pour Onéguine, il reste là, tétanisé. À quel vent noir, à quelle ruine, son cœur se retrouve exposé. Mais un bruit d'éperon résonne et le mari entre en personne. Et là, notre héros, lecteur, juste à l'instant de sa douleur. Quittons-le de façon furtive, pour longtemps, pour toujours. Assez de routes avons-nous tracées ensemble au cours des ans. La rive est là. Mes félicitations. Il était temps, j'ai l'impression.
André Markovitch.
Eugène Onéguine, c'est l'histoire d'une non-rencontre. Cette non-rencontre est expliquée pendant 6500 vers, les plus beaux vers de la langue russe. Parce que le roman ne parle, il parle de rien. Il parle de l'air lumineux.
Et de rien et de tout.
De rien et de tout. C'est une espèce, c'est pas pour rien que, comment, un des critiques du 19e siècle, Belinsky, parlait de Onéguine comme de l'encyclopédie de la vie russe. Mais c'est pas l'encyclopédie de la vie russe. C'est la vie même. Mais dans une espèce de légèreté, de lumière, de tristesse et d'ironie telle que c'est absolument unique. Et surtout, les grands romans russes, et Dieu sait si j'ai traduit des grands romans russes, j'ai traduit
tous.
Voilà, non, tout Dostoïevski en tout cas, tous, ils essayent de vous apprendre comment vivre.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Benjamin Vignal à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Leila Kourosiliqua, Perrine Malinge, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.